Les mystères du Palais Royal. Première partie. Le diable. Chapitre 37. Le Vendredi Saint. Il fut décidé dans ce conciliabule que je parlerais au commandeur de Foulquer pour le prier de faire cesser des abus dont il était la cause. Je devais lui représenter tous les inconvénients de la conduite des jeunes Français, conduite dont lui seul pouvait arrêter les progrès, attendu la juste considération que lui méritait son grand nom, sa fortune immense, sa haute valeur et l'incontestable influence dont il jouissait sur tous ceux de sa nation. Je comptais bien mettre dans cette explication toute la mesure et tous les égards possibles, mais je n'espérais guère, cependant, qu'elle pût se terminer autrement que par un duel. J'étais d'ailleurs enchanté d'avoir été choisi pour soutenir cette affaire d'honneur, et cela pour deux raisons. La première, c'est qu'elle intéressait d'une manière directe la dignité castillane. La seconde, c'est que du premier moment où j'avais vu Foulque de Foulquer, je m'étais senti dominé à son endroit par une singulière et naturelle antipathie, et que l'idée d'une rencontre sanglante avec lui me souriait comme une véritable partie de plaisir. Je remerciais mes compatriotes de la glorieuse confiance dont ils avaient bien voulu m'honorer, et je leur promis de ne point démériter de cette confiance. Nous étions en ce moment dans les premiers jours de la semaine sainte. Plein de respect pour ces temps vénérés, nous convînmes que mon entrevue avec le commandeur serait retardée jusqu'après l'expiation de la quinzaine de Pâques. Mais quoique je n'en aie jamais eu la preuve, il est évident pour moi que Foulque eut indirectement connaissance de ce qui s'était passé chez moi et de la résolution qui y avait été formée, et qu'il résolut de prendre l'initiative et de nous prévenir en me cherchant querelle. Le Vendredi Saint arriva. L'usage espagnol est, si l'on s'intéresse à une femme, de la suivre ce jour-là d'église en église, à chacune de ses stations, et de se trouver auprès du bénitier afin de lui présenter de l'eau bénite au moment de son entrée et celui de sa sortie. Je ne doute point que la jalousie, innée dans tous les cœurs espagnols, n'ait dicté cet usage, qui n'a d'autre but que d'empêcher quelque hardi cavalier de profiter de votre absence et de l'occasion pour faire connaissance avec la dame de vos pensées et vous supplanter si faire se peut. Toujours est-il que ce jour-là, je m'étais attaché au pas d'une jeune et belle femme que j'aimais et à laquelle les liens d'une tendre liaison m'unissaient depuis longtemps. La première église dans laquelle elle entra était celle de Sainte-Marie-Majeure. Au moment où j'y arrivais à sa suite, le porche était encombré par une bande de caravanistes français, beaucoup moins occupés de leur dévotion que de lancer de brûlantes œillades aux jolies honorates qui passaient. Je m'empressais pour arriver au bénitier. Le commandeur de Foulquer y était avant moi. Il aborda familièrement et impudemment ma maîtresse pour lui présenter de l'eau bénite, et se plaça entre nous deux de façon à me tourner le dos, à m'effleurer du coude et à me marcher sur les pieds. En même temps, un léger ricanement des caravanistes français m'apprit que cet outrage était prémédité et ne passait point inaperçu. Je sentis que le sang me montait au visage et m'aveuglait. Cependant, par respect pour la sainteté du lieu, j'eus la force de me contenir et de ne point rendre insulte pour insulte. Au bout d'un instant, ma colère était, sinon dissipée, du moins refroidie, et j'étais redevenu complètement maître de moi-même. J'attendis patiemment que Foulque sortît de l'église, et je l'abordai d'un air de froideur et d'indifférence. « Seigneur Commandador, lui dis-je, je suis heureux que cette rencontre fortuite me permette de m'informer de la santé de votre seigneurie illustrissime. « Seigneur Commandador, me répondit-il, ma santé va le mieux du monde, et je remercie votre seigneurie illustrissime de l'intérêt qu'elle veut bien y prendre. » Oserais-je demander à votre seigneurie illustrissime, continuai-je, dans quelle église elle compte aller faire sa deuxième station? Dans l'église magistrale de Saint-Jean, répliqua le commandeur. Si cela convient à votre seigneurie, repris-je, j'aurai l'honneur de l'y conduire par le chemin le plus court. Je m'attendais à voir M. de Foulquer s'étonner de l'étrange empressement sur lequel je me mettais à ses ordres. Il n'en fut rien. Je l'entendis me répondre au contraire du ton le plus courtois et de l'air le plus gracieux. Je serai charmé de m'y rendre à la suite de votre seigneurie illustrissime, que je remercie très sensiblement et très humblement pour sa prévenance et sa politesse. » Tout en parlant ainsi, il me suivit sans défiance. Je l'occupai de mon mieux par la conversation, et je l'emmenai, sans qu'il s'en aperçût, jusqu'au milieu de la strada stretta. Une fois arrivé là, je m'empressai de tirer l'épée, bien assuré d'ailleurs que dans un jour comme celui-là, où les offices religieux attiraient tout le monde dans les églises, personne ne viendrait nous déranger. Fulker remarqua mon mouvement et s'écria « Comment, signor commandador, vous mettez l'épée à la main ?»« Oui, » répondis-je aussitôt. « Oui, monsieur le commandeur, je mets l'épée à la main, et je suis en garde, et je vous attends. » Après une minute d'hésitation, Fulker se mit en garde à son tour. Mais, presque en même temps, il abaissa la pointe de son arme. « Que faites-vous donc ? » m'écriai-je. « Vous ne vous défendez pas ? Pourquoi ?»« Un vendredi saint ? » murmura-t-il. « Qu'importe ! » « Écoutez, il y a 6 ans que je me suis approché du confessionnal. Je suis épouvanté de l'état de ma conscience. Mais dans 3 jours, c'est-à-dire lundi matin, nous nous retrouverons. » « Non, pas dans 3 jours, » m'écriai-je. « Non, pas dans 2. Non, pas demain. Non, pas dans 1 heure, mais ici et à l'instant même. » « Au nom du Dieu vivant qui est mort pour nous à pareil jour, » reprit Monsieur de Fulker, « ne repoussez pas la demande que je vous adresse. Je la repousse. Ainsi, vous êtes sans pitié et sans miséricorde ? » ?»« Oui. Eh bien, alors, moi qui ne veux pas compromettre à tout jamais le salut de mon âme, je refuse de me battre aujourd'hui. Je suis d'un naturel paisible, et vous savez que les gens de ce caractère n'entendent jamais raison quand ils sont irrités. » Le commandeur achevait à peine de prononcer les paroles que je viens de vous redire, que déjà mon épée s'était levée et était retombée à plat sur le visage de mon adversaire, le souffletant ignominieusement. À cet affront sanglant, je vis un nuage pourpre remplacer la pâleur habituelle de Monsieur de Fulker. Des éclairs jaillirent de ses yeux, sa main nerveuse se crispa sur la poignée de son épée, et il se remit en garde pour la seconde fois. Je l'attaquai vivement et avec furie. À peine avions-nous croisé le fer que l'expression de ses traits changea. La terreur se peignit sur son visage redevenu pâle. Il se plaça tout auprès du mur, comme si, prévoyant qu'il allait être renversé, il avait voulu s'y appuyer. C'était un pressentiment, car à la première botte que je lui portais, mon épée le traversait de part en part. Il s'adossa à la muraille et resta debout pendant 1 seconde, puis il tomba sur son genou, et se soutenant d'une main sur la terre, il me dit d'une voix défaillante et entrecoupée déjà par le hoquet de la mort « Un vendredi saint, un vendredi saint, puisse Dieu vous pardonner ma mort. Portez mon épée à tête foulque et faites dire 100 messes pour le repos de mon âme dans la chapelle du château. » Ensuite, son genou glissa sur le sol arrosé de sang, les muscles de son bras se détendirent. Il tomba tout étendu, les dents serrées et les yeux ouverts. Une passagère convulsion agita ses membres, et il expira. Dans le premier moment, je n'apportais pas une grande attention aux dernières paroles qu'il avait prononcées, et si je vous les rapporte si exactement aujourd'hui, c'est que depuis lors, elles ont malheureusement retenti bien des fois à mes oreilles. Je fis une déclaration dans la forme fixée par les statuts. Le chapitre de l'ordre se rassembla pour en délibérer, et trouva tout naturel que nous étant rencontrés dans la strada stretta, notre hostilité nationale, jointe peut-être à la difficulté de nous céder le pas, eût dégénéré en une querelle sérieuse. Toujours est-il qu'au point de vue humain, mon duel, bien loin de me faire du tort, me fit au contraire infiniment d'honneur. C'était à qui me féliciterait et me complimenterait, car Fulker était généralement détesté, et l'on trouva qu'il avait bien mérité sa destinée. Les hommes jugeaient ainsi, mais il n'en était pas de même au tribunal de Dieu, non plus qu'à celui de ma conscience. Je ne tardais pas à comprendre que mon action était doublement criminelle. D'abord, parce que j'avais répandu le sang de mon prochain un jour de vendredi saint. Ensuite et surtout, parce que j'avais refusé au malheureux commandeur le délai de 3 jours qu'il implorait de moi afin de se mettre en paix avec le ciel et de pouvoir s'approcher des sacrements. Non seulement j'avais tué le corps de M. de Foulquer, mais encore, selon toute apparence, j'avais tué son âme en compromettant son salut éternel. Je me dis tout cela, je m'accusais de mon crime au tribunal de la pénitence, et les reproches de mon confesseur ne furent guère moins sévères que ceux que je m'adressais à moi-même. Chapitre 38. La pénitence. Don Raymond venait de faire passer sous les yeux de son hôte les circonstances dramatiques et mystérieuses de son duel avec Foulque de Foulquer. Au moment précis où il prononçait les dernières paroles que nous avons rapportées, minuit sonnait à la pendule du salon oriental. À peine le premier des 12 coups avait-il retenti que Don Raymond porta brusquement la main à sa poitrine. Un gémissement douloureux s'échappa de sa gorge. Il murmura ces mots. « Il vient ! Il vient ! Le voici !» Et il tomba comme foudroyé sur le tapis. Raoul, qui n'était pas très éloigné de s'attendre à un événement de ce genre, releva le corps de son hôte et l'étendit sur le large divan. Puis, ne voulant pas manquer à la promesse qu'il avait faite peu d'instants auparavant, M. de la Tremblay, quoiqu'il regardât toute pratique pieuse comme un acte de faiblesse et de superstition, prit le volume relié en chagrin noir et garni de fermoirs en argent qui lui avait été remis par Don Raymond. Il l'ouvrit à l'endroit marqué par un signet couleur de sang. Il s'agenouilla auprès du divan et il se mit à lire à demi-voix les 7 psaumes de la pénitence. À peine avait-il achevé que l'évanouissement du commandeur cessa comme par enchantement. Don Raymond se leva du divan sur lequel il était couché. Son visage semblait plus pâle que de coutume. Il vit le livre entrouvert que M. de la Tremblay tenait à la main et lui dit « Vous avez fait ce que je vous avais demandé. Merci. » Puis comme si rien d'étrange et de mystérieux ne venait de se passer, il reprit son récit un instant interrompu. Dans la nuit du vendredi au samedi, juste 8 jours après mon duel fatal avec Foulque de Foulquer, je fus réveillé en sursaut par le timbre de ma pendule qui sonnait minuit. Quoique je fusse bien certain d'avoir éteint ma lumière avant de m'endormir, ma chambre me parut faiblement éclairée. Je regardais autour de moi, pensant que quelqu'un venait peut-être de s'introduire dans mon logis. Et alors, je vis, oui, je vis, car c'était une vision et non pas un rêve. Je vis que je n'étais ni dans ma chambre, ni dans mon lit, mais dans la strada stretta, et couché sur le pavé. En face de moi, le genou en terre et s'appuyant sur sa main droite, je vis le commandeur. Son visage était aussi livide que celui d'un mort qui vient de sortir du tombeau. Un flot de sang jaillissait de la large blessure qu'il avait au-dessus du cœur. Ses lèvres s'entrouvraient comme pour me parler, mais ne laissaient échapper aucun son. Enfin, j'entendis ces mots prononcés d'une voix presque indistincte, c'est-à-dire que je les devinais plutôt que je ne les entendis. « Portez mon épée à tête Foulque et faites dire 100 messes pour le repos de mon âme dans la chapelle du château. » La vision disparut, je poussai un cri et je m'évanouis. Quand je revins à moi-même, il faisait déjà grand jour et j'étais baigné d'une sueur froide. La nuit suivante, je fis dresser à côté de mon lit un lit pour un de mes valets de chambre. La vision ne reparut pas. Il en fut de même pendant les 6 nuits suivantes. Mais dans celle du vendredi au samedi, mon sommeil fut interrompu de nouveau par l'apparition infernale. Il me semblait seulement que mon valet était couché à une petite distance de moi, sur le pavé de la strada stretta. Je revis le commandeur de Foulquer dans l'attitude de son agonie, et je l'entendis me dire pour la 3e fois, de sa voix mourante et inarticulée, « Portez mon épée à tête Foulque, et faites dire 100 messes pour le repos de mon âme dans la chapelle du château. » Je m'évanouis de nouveau en poussant un cri d'épouvante qui réveilla mon valet. Il me prodigua ses soins, et quand je repris connaissance et que je l'interrogeai, il me répondit que dans les derniers instants de son sommeil, il avait rêvé qu'il était couché dans une petite ruelle fort étroite. Du reste, il n'avait ni vu ni entendu le commandeur. Tous les vendredis, la vision se renouvela avec les mêmes détails et les mêmes paroles. Évidemment, l'âme du défunt Foulquer tenait par-dessus toute chose à ce que je fisse porter son épée à tête Foulque, puisqu'elle venait me le répéter si souvent. Mais j'ignorais entièrement ce que c'était que tête Foulque. Je pris des informations, je questionnai quelques Français, et j'appris d'un chevalier poitevin que tête Foulque était un vieux château situé dans une forêt à 8 ou 10 lieues de Poitiers. On racontait sur cette résidence les choses du monde les plus extraordinaires et les plus fantastiques, et le bruit courait dans le pays qu'on y voyait un grand nombre d'objets curieux, notamment l'armure du fameux Foulque Taillefer et les armes de tous les chevaliers qu'il avait tués. On ajoutait que l'usage immémorial des Foulquer avait toujours été d'y faire déposer les armes qui leur avaient servi, soit à la guerre, soit dans les duels. Je quittai Malte et je m'en allai d'abord à Rome, où je confessai au cardinal grand pénitencier le crime que j'avais commis. Je lui racontai en même temps la terrible vision dont j'étais obsédé. Il me plaignit, il m'affirma que ce qui m'arrivait n'était point sans précédent, et que Dieu, dans sa justice, avait permis parfois aux âmes de ceux qui étaient morts en état de péché mortel de venir sur la terre demander des prières, soit à des amis ou à des parents, soit au meurtrier lui-même. Enfin, il ne me refusa point l'absolution que méritait mon repentir, mais il ne me la donna que conditionnellement, après ma pénitence future. C'est-à-dire que je ne serais en réalité purifié et absous que lorsque j'aurais fait dire dans la chapelle de tête Foulque les 100 messes qui faisaient partie de cette pénitence. J'avais eu soin de porter avec moi l'épée du commandeur, et comme j'avais grande hâte d'accomplir la pénitence imposée, espérant que la vision disparaîtrait aussitôt après, je pris sans retard le chemin de la France. À peine avais-je mis les pieds sur le sol de votre patrie que je fus assailli par des temps abominables qui se prolongèrent pendant tout mon voyage, de telle sorte que je traversai la France sous les torrents d'une pluie diluvienne et ayant de la boue, dans certains endroits, jusqu'au poitrail de mes chevaux. Cependant, j'arrivai à Poitiers, où je mis pied à terre dans une hôtellerie de bonne apparence. Ce jour-là, les cataractes du ciel s'étaient ouvertes avec une impétuosité plus grande encore que de coutume. Mes vêtements étaient ruisselants, et je sentais un frisson de mauvais augure courir sur mes membres raidis, si bien qu'au lieu de monter à l'instant même dans l'appartement qu'on me préparait, je m'arrêtai dans la salle commune, et je m'assis sur une escabelle, sous le manteau de la cheminée gigantesque que 2 ou 3 troncs d'arbres amoncelés métamorphosaient en une fournaise ardente. Il y avait dans cette salle un grand mouvement d'allées et de venues. Les voyageurs s'y succédaient, et l'hôte y donnait d'un air affairé des ordres à sa valetaille. Le nom du commandeur Foulque de Foulquer, prononcé tout près de moi, me fit soudainement prêter l'oreille. « Voilà la famille éteinte, » disait quelqu'un que je supposais, d'après son costume, être un petit gentilhomme des environs, sorti de sa gentilhommière pour venir à Poitiers. « De quelle famille parlez-vous ? » demanda un second interlocuteur. « Et parbleu, des Foulquer ?»« Bonne noblesse, » interrompit une voix, « mais mauvaise renommée. » « Le commandeur est donc mort ?» interrogea celui qui venait de parler un instant auparavant. « Quoi, vous ne savez pas la nouvelle ?»« Non, en vérité. » « Eh bien, le commandeur a été tué à Malte, il y a 2 ou 3 mois. »« En duel ?»« Oui. » »« Sait-on par qui ?»« Par un chevalier espagnol dont j'ignore le nom. » »« Voilà une vaillante épée, et qui a frappé un coup digne d'éloge. » Je ne crois point que beaucoup de larmes soient versées sur la mémoire du seigneur Foulque. C'était un mauvais homme. Dites plutôt un démon incarné, l'horreur et l'effroi de ses vassaux, dont il tuait les fils à la chasse et dont il violait volontiers les femmes et les filles. Il venait rarement, je crois, à son château de tête Foulque. Oui, mais ses visites, quelque rares qu'elles fussent, étaient trop fréquentes encore. Enfin, puisqu'il n'est plus de ce monde, qu'on lui pardonne, et que Dieu ait son âme. À vous parler franc, je doute fort que Dieu la réclame, et je crois que le diable a dû la regarder de tout temps comme sa propriété légitime. Cette conversation, que je viens de vous rapporter presque textuellement, me prouva que le bruit de la mort du commandeur m'avait devancé à Poitiers, et qu'on en était encore moins affligé dans cette ville qu'à Malte. Je vous avouerai que je me réjouis de cette animadversion générale que soulevait le commandeur. Il me sembla, à tort ou à raison, que j'étais moins coupable de ne point avoir accordé à un homme si profondément détesté la suprême grâce qu'il me demandait. Il n'en fallait pas moins accomplir ma pénitence, et je résolus de le faire dès le lendemain, qui était un jeudi, afin de ne pas risquer de me trouver un vendredi au château de Tête-Foulc. Chapitre 39. La forêt. En conséquence, le soir même, aussitôt après le souper, je fis monter l'hôte dans mon appartement afin de prendre les renseignements qui m'étaient nécessaires. « Quelle distance ?» lui demandai-je. « Y a-t-il d'ici à Tête-Foulc ?» L'hôtelier me regarda d'un air stupéfait et s'écria « Votre seigneurie va au château ?»« Oui, » répondis-je. « Votre seigneurie ne sait donc pas que le château est inhabité et que son dernier propriétaire, Monseigneur Foulque de Foulquer, vient de mourir à l'île de Malte ?»« Je sais tout cela, et je vous prie de me répondre. » « C'est différent, » murmura l'hôte, et il ajouta, « D'ici à Tête-Foulc, il y a 8 lieues. Les chemins sont-ils bons ?»« Non, votre seigneurie, ils sont impraticables en tout temps, et doivent, dans ce moment, s'être métamorphosés en torrents et en fondrières. On n'y passerait point en voiture, tout au plus à cheval. Pourrez-vous me procurer un guide ?»« Jusqu'à moitié chemin, mais pas plus loin. » « Pourquoi donc ?» À partir d'un endroit qui se nomme, je ne sais à quel propos, la combe de l'homme mort, la réputation de la forêt est si mauvaise que ni pour or, ni pour argent, vous ne décideriez un habitant de Poitiers à la traverser avec vous. Que dit-on donc de cette forêt? Beaucoup de choses effrayantes. Mais encore, on parle de maléfices et de sortilèges, d'apparitions effrayantes, de mauvais esprits qui se plaisent à égarer les voyageurs, vers des abîmes invisibles où ils se cassent le cou et se rompent les os. Croyez-vous donc que tout cela soit vrai? Sur mon honneur, je n'en sais rien, mais on le dit, et cela suffit pour épouvanter tous les gens du pays. Eh bien, procurez-moi un guide jusqu'à la combe de l'homme mort, puisque c'est ainsi que vous appelez cet endroit. Je ferai le reste du chemin tout seul. Le projet de votre seigneurie est-il de se mettre en route demain? Oui. À quelle heure? Au point du jour. C'est bien, les ordres de votre seigneurie seront accomplis. L'hôte fit mine de s'éloigner, je le retins. Ce n'est pas tout encore, lui dis-je. Que désire de plus votre seigneurie? Je désire que vous me fournissiez un costume complet de pèlerin, avec coquilles, rosaires et bourdons. Et comme je m'aperçus que l'hôte me regardait avec un air d'étonnement stupide, j'ajoutai. Mon voyage au château de Tête-Foulc est un pèlerinage à la suite d'un vœu. Je trouve convenable de revêtir un costume humble et sanctifié pour accomplir ce vœu. Le costume sera à la disposition de votre seigneurie en même temps que le guide, me répondit l'hôte. Et il s'éloigna. Le lendemain matin, tout était prêt, ainsi que je l'avais demandé. J'endossai la longue robe brune d'un pèlerin voyageur. Sous cette robe, j'attachai d'un côté l'épée du commandeur et de l'autre une bourse de cuir, suffisamment gonflée de pièces d'or, qui devait servir à payer les 100 messes. Ensuite, je descendis dans une salle basse où je trouvai mon guide. C'était un jeune paysan de 15 à 16 ans, dont le visage, maigre et pâli, entouré de longs cheveux d'un blond presque incolore, manquait absolument de caractère et de physionomie. Ce garçon était grand pour son âge, très fluet, monté sur de hautes jambes grêles comme celles d'un héron, et muni de longs bras menus, qui s'agitaient sans cesse comme les deux ailes d'un moulin à vent. Nous partîmes. Le ciel était bas et sombre, et de longues traînées d'une pluie fine et grise rayaient incessamment l'atmosphère. Pendant 1 heure environ, nous marchâmes en rase campagne, au milieu d'une boue glissante et délayée, dans laquelle nous entrions parfois jusqu'aux genoux. Au bout de ce temps, nous atteignîmes la lisière de la forêt immense, qui couvrait 20 lieues carrées de pays, et au milieu de laquelle était situé le château de Tête-Foulc. Devant nous s'ouvrait une sorte d'avenue de chênes et d'ormes séculaires, dont les branches entrelacées formaient au-dessus de nos têtes une voûte ténébreuse. Le jeune paysan fit le signe de la croix avant d'entrer sous cette voûte. Je l'imitai. Nous venions d'agir, lui et moi, de la même manière, mais guidé par des mobiles bien différents. Lui obéissait à une terreur irréfléchie et superstitieuse. Moi, je ne craignais rien, mais je remettais mon âme et mon corps entre les mains de Dieu. À mesure que nous avancions, l'avenue devenait plus étroite et la voûte de verdure s'abaissait davantage. Au bout d'une lieue à peine, elle s'était transformée en un sentier dans lequel nous n'aurions pas pu marcher de front, et nous étions obligés de nous courber pour ne point heurter notre tête contre les branches les moins hautes. Parfois, quelques chevreuils effarés traversaient d'un bond le sentier à 15 ou 20 pas devant nous, et au bruit des feuilles sèches froissées par le farouche animal, mon guide s'arrêtait tout tremblant et redoublait ses signes de croix. Bientôt, je me sentis accablé de fatigue. « Avançons-nous ? » demandai-je à mon guide. « Dame, me répondit-il, nous ne reculons point, mais nous n'avançons guère. Dans combien de temps serons-nous à la combe de l'homme mort ? » « Je ne pourrais pas trop vous dire. Dans 2 ou 3 heures approchant, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Vous êtes bien sûr de ne pas vous tromper de chemin. » « Oh, pour cela, oui, je me retrouverai dans la forêt les yeux fermés. J'y viens assez souvent pour prendre des lapins et dénicher des merles. » Je me remis en marche, et pour tâcher d'oublier la longueur de la route et la fatigue que j'éprouvais, j'interrogeai le jeune garçon au sujet des périls mystérieux dont l'hôtelier m'avait parlé la veille au soir, et d'abord sur l'appellation bizarre de l'endroit où il devait me quitter. Il me répondit que la combe de l'homme mort était ainsi nommée parce qu'un bâtard de Foulque Taillefer, comte d'Angoulême, ayant failli y être assassiné par un de ses vassaux dont il avait violenté la femme, ce bâtard fit prendre le paysan et le fit enchaîner par le cou et par les pieds sur une pointe de rocher qui s'élève au milieu de la combe, et où il le laissa mourir de froid et de faim. Pendant plus d'un siècle, les ossements blanchis du cadavre restèrent enchaînés sur le lieu du supplice. Le jeune garçon ajouta que depuis ce temps, les génies infernaux avaient pris possession de la forêt et de tous les alentours du château de Tête-Foulque. Et il ne tarit point dans le récit qu'il me fit des abominables traitements qu'il réservait aux voyageurs égarés dans leur domaine. En écoutant ces étranges légendes, je ressentais une impression bizarre. Avais-je le droit de ne pas croire à ces événements surnaturels? Moi, qui servais de jouet à une fascination tellement en dehors des faits matériellement possibles. Je me prenais à douter et je mettais de nouveau mon âme entre les mains de Dieu. Cependant, nous avions marché pendant plus de 3 heures. Mes jambes refusaient de me porter plus longtemps. Mon visage et mes mains avait été déchiré par les broussailles jusqu'à en être ensanglanté. Mon guide s'arrêta tout à coup. Nous étions arrivés sur les bords d'une vallée large et peu profonde, dans laquelle ne poussaient que de loin en loin quelques grands arbres. La longueur de cette vallée n'excédait pas 3 portées de mousquet. Au milieu se voyait un amoncellement de roches brunes et verdâtres, couronnées par un pic d'une teinte plus blanche. « Voilà la combe de l'homme mort, » me dit alors le jeune paysan. « Je vous laisse, comme c'est convenu. »« Suis-je à moitié chemin de Tête-Foulque ? » demandai-je. « Dame, à peu près. Je n'y suis jamais allé, moi, à Tête-Foulque. Mais on m'a dit bien des fois qu'il n'y avait pas plus loin du château à la combe que de la combe à la ville. » « Et par où devrais-je passer maintenant ?»« De l'autre côté de la combe, vous allez trouver un sentier qui fait face à celui-ci. Vous n'avez qu'à le suivre. Il va du côté du château. » Puis, après m'avoir donné presque à regret ces indications si incomplètes, mon guide me tourna les talons et s'enfuit à toutes jambes comme s'il n'avait pas ressenti la moindre fatigue. Je descendis dans la petite vallée, et comme je me sentais brisée au point de ne pouvoir marcher davantage sans avoir pris quelques minutes de repos, je cherchais un endroit où je pusse me mettre à l'abri de la pluie, qui tombait sans relâche. Parmi les roches amoncelées dont je vous parlais tout à l'heure, se trouvait pratiquée une petite grotte peu spacieuse, mais parfaitement sèche. Une mousse épaisse en couvrait le sol, je m'étendis sur cette mousse. Je ne tardai pas à sentir que le sommeil s'emparait de moi. J'essayai de lutter, mais ce fut en vain. Je m'endormis. Combien de temps dura mon sommeil? Je l'ignore. Toujours est-il que quand je me réveillais, il faisait presque nuit. Je me hâtais de quitter la grotte. J'étais parfaitement reposée, mais je mourais de faim, car je n'avais rien mangé de toute la journée. Je ne pouvais espérer de trouver un asile et un repas qu'à tête Foulque. Aussi, je m'engageai résolument dans le sentier qui, d'après le dire du jeune paysan, devait me conduire au château. Sans doute, il était plus tard que je ne le croyais, car au bout d'une demi-heure à peine, les ténèbres devinrent compactes. Ajoutez à cela que, tout en cheminant à peu près à tâtons, je rencontrai un embranchement du chemin, ou plutôt deux chemins, dont l'un tournait à droite et le second à gauche. Lequel prendre? Je m'abandonnai au hasard et je me jetai sur la gauche. Sans doute, j'avais été mal inspiré, car je ne tardais pas à me heurter contre une barrière de rochers infranchissables. Le sentier n'avait pas d'issue. Le découragement s'empara de moi. Je me dis que s'il fallait passer la nuit tout entière dans cette forêt où j'étais perdu, j'y périrais misérablement. Les douleurs de la faim devenaient intolérables, et mes membres s'engourdissaient de plus en plus. Cependant, je revins sur mes pas. J'atteignis la bifurcation des deux routes et je marchais, ou plutôt, je me traînais vers la droite. J'allais bien lentement et je trébuchais à chacune des inégalités du terrain. Soudain, l'un de mes genoux heurta une racine. Le cœur me manqua tant l'angoisse fut forte. Je perdis connaissance.